Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bienvenue à toutes et à tous sur Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral hebdomadaire. Ça continue même pendant le confinement, et ça continue bien, puisqu'on a interviewé Valérian Guillaume, membre de la compagnie Désirade et auteur de Nul si découvert. Martin nous parlera aussi de l'article de Thibaut Croissy, La catastrophe comme produit culturel. Mais tout de suite, à moi de vous présenter un spectacle. Un nouveau théâtre nous a fourni quelques ressources, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du théâtre de l'Odéon. L'occasion de voir ou revoir quatre pièces de Stefan Braunschweig. Ce dernier a mis en scène sept pièces du grand dramaturge norvégien Henrik Ibsen, dont quatre sont disponibles sur le site web du théâtre. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Une maison de poupée, probablement la pièce la plus célèbre de cet auteur. Entre argent et engagement familial, cette pièce a fait un scandale puisqu'elle remet en question la notion de mariage et de mère. Une pièce intéressante qui a mené Nora, personnage principal, à devenir dans les années 70 une figure du mouvement féministe, inspirant par exemple la pièce « Ce qui arriva après que Nora eut quitté son mari » ou « Les soutiens de société », écrite en 1977 par Jelinek. Mais assez par les contextes, que nous dit cette mise en scène ? Un traitement réaliste de cette pièce est déjà perceptible dans la place qui est laissée au texte. Tout le reste paraît secondaire. Ne l'est pas, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le texte est central, il met en tension les différentes relations. Un texte indiscutablement bon, et encore actuel malgré le fait qu'il ait été écrit en 1879, soit il y a près de 150 ans. Le personnage de Nora est incarné par Chloé Réjon, une figure charismatique, aux cheveux téméraires, qui traduisent déjà le côté rebelle que l'on donnera à Nora. Et je dis côté rebelle car ce qui est aussi mis en avant, c'est sa naïveté. Malheureusement pour elle, elle se trouvera vite en difficulté, mais on nous la présente comme cela au début. Insouciante, heureuse, dynamique, débordée comme une mère de famille épanouie. Tout la satisfait, et au même titre que la chute du personnage, le visage de cette actrice semble changer lui aussi, se durcir. On sent alors la jeunesse la quitter. Un jeu fin qui fait ressortir la complexité de pareilles impasses. Ses costumes paraissent suivre la descente aux enfers avec ironie, mettant d'autant plus en valeur ce visage grave, ce corps de plus en plus défait. Accompagné d'une scénographie simpliste au premier abord, on remarque encore une fois que cette dernière repose finalement sur le mouvement. D'abord l'univers blanc, qui semble dissimuler des murs ternis et sales. La portée symbolique est incontournable. On voit, sous nos yeux, son petit monde, sa maison de poupée, devenir ce qu'elle a toujours été, un carcan, une prison. Le rythme est soutenu, et malgré les 2h30 de pièces qu'il n'est pas évident de regarder de chez soi, on reste accroché à l'histoire, on se laisse facilement porter par le récit troublant de Nora. Tout est assez discret finalement. La scénographie bouge lentement, les costumes évoluent peu, pour laisser finalement la place au texte joué avec brio par les comédiens. Je ne connaissais pas cette pièce, mais la mise en scène que nous en propose Braunschweig permet d'y accéder avec confort et intelligence. Je vais vous laisser avec cette citation de Nora, qui résume assez bien les enjeux et qui nous fait comprendre comment cette femme est devenue une figure féministe. « Je ne peux plus me contenter de ce que disent les gens et de ce qu'on trouve dans les livres. Je dois réfléchir toute seule et essayer d'y voir clair. »
Mm-hmm.
sommes en compagnie de Valérian Guillaume, auteur de Nul si découvert, sorti récemment aux éditions de l'Olivier, mais aussi acteur et metteur en scène pour la compagnie Désirade. Il est aussi en train de réaliser un doctorat sacre mêlant création et recherche. Bonjour Valérian.
Bonjour.
Alors, vous avez un traitement particulier du texte au théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, dans le cadre de ma recherche création et dans les spectacles que je mets en scène actuellement, il y a une quête que je poursuis, c'est une quête en forme de question. Cette question, c'est celle-ci, c'est comment les écritures en train de se faire sur la scène peuvent susciter du spectaculaire et de quelle dramaturgie ces dernières peuvent-elles être les vectrices ? Et pour ce faire, donc, je vais de plus en plus moi-même sur la scène, c'est-à-dire officier au rôle d'écrivain en direct, c'est-à-dire que je me place à vue et en direct devant les spectateurs en train de formuler un texte qui apparaît devant eux avec des protocoles plus ou moins précis, on va dire, en tout cas des protocoles dans lesquels il y a une zone de flou, une zone de liberté dans laquelle je peux jouer avec le temps réel et l'improvisation et faire de l'écriture un endroit un peu dangereux et... comment dire, un peu comme un jongleur qui jongle avec des balles, ça pourrait tomber à tout moment, il y a quelque chose un peu de l'équilibre et du danger dans cette position d'écriture à vue. Et j'essaye de voir comment l'écriture peut dialoguer avec les acteurs à plusieurs endroits, c'est-à-dire comment l'écriture peut être à la fois un partenaire de jeu, mais aussi l'expression d'une intériorité ou le commentaire de quelque chose qui est en train de se passer, ou un révélateur de ce qui n'est pas dit. Enfin, voilà, j'essaie de voir un peu toutes les possibilités de l'écriture en direct et en faire quelque chose de dynamique dans les spectacles.
Dans Fragments d'une nuit, spectacle de 2016, vous projetez des dessins réalisés en direct. En quoi est-ce que ça modifie le rapport au corps de l'acteur, à l'espace ?
Alors ce premier spectacle qui s'appelle Désirade, Fragments d'une nuit, que nous avons créé dans le cadre de la compagnie que nous avons créée il y a 5 ans maintenant, c'était un spectacle sur l'amour 2.0 et on s'interrogeait sur la façon dont le langage amoureux évoluait aujourd'hui et pour traiter cela avec mon camarade et ami Thibault Lepage qui est dessinateur, nous avons inventé un dispositif théâtral dans lequel lui en direct traçait sur une tablette graphique des traits de dessin depuis un logiciel qui venait parfois révéler un œil d'un acteur, parfois isoler la bouche, parfois venir l'entourer, parfois dessiner les rêves du personnage, enfin essayer de voir comment ce fil rouge, ce fil rouge du dessin pouvait venir exprimer tout un univers onirique qui n'était pas forcément formulable par le langage humain et d'essayer de trouver quelque chose, un envers à la parole, une sorte de négatif de la parole, un peu comme en photographie, de voir comment on peut bousculer l'écriture dramatique aujourd'hui en incorporant un nouvel élément à prendre en compte. De là, du coup, plusieurs questions se posent quand on crée un spectacle comme ça. C'est comment on dirige, comment peut-on appliquer la direction d'acteur à quelqu'un qui trace, à quelqu'un qui est graphiateur, ce qu'on appelle graphiateur, c'est-à-dire celui qui trace sur la scène. Un trait exprime déjà beaucoup, comme une voix peut exprimer beaucoup. Un mot, quand il est dit très fort, ne dit pas la même chose qu'un mot qui est chuchoté, par exemple. Alors un trait qui va être très gros et très vif et très rapide ne va pas dire la même chose qu'un petit trait qui va venir lentement sur la scène, très doucement. Enfin voilà, il y a plein de possibilités aussi rythmiques dans le trait et dans l'apparition de celui-ci.
Du coup, votre travail est complètement expérimental, du fait notamment de l'improvisation qui est complètement omniprésente dans votre travail. Pourquoi est-ce que vous avez justement choisi d'improviser, même sur scène ?
En fait, j'essaie de me rapprocher du moment où l'écriture arrive en nous. C'est Yon Foss, il parle beaucoup de ça, de l'écrit qui arrive dans la tête de l'écrivain, et c'est de le mettre en scène aussi, et de trouver ce moment où les mots ne sont pas encore arrivés, où les mots ne sont pas arrivés dans un formulé, quelque chose d'appris, etc. De voir comment, en fait, on peut trouver l'écriture, non plus comme une finalité sur la page, avec les caractères imprimés, dits, appris par cœur, ressuscités par la voix de l'acteur, mais voir comment l'écriture peut finalement devenir un mouvement, voire une danse, quelque part. Il y a quelque chose de très chorégraphique dans la graphie en train de se formuler. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et évidemment, l'improvisation est très présente parce que improviser, c'est aussi se mettre en danger, se mettre à nu devant une expérience. Mais c'est aussi une façon de célébrer le temps présent, le temps qui passe, c'est-à-dire l'ici et maintenant du théâtre, et de prendre en compte que nous sommes dans un dispositif d'écoute et de réception qui n'est pas normal, on va dire. C'est quand même incroyable de pouvoir être sur une scène devant des gens qui nous regardent. Ce n'est pas du tout habituel. Je veux dire, Il y a des gens qui sont assis, qui sont d'accord d'être là et qui, du coup, regardent ces mots arriver là. Je crois qu'il y a une grande possibilité là-dedans, dans cette théâtralité, que ce soit du trait ou que ce soit de l'écriture en train de formuler.
Dans une interview avec Désirade, votre compagnie de théâtre, réalisée par le Théâtre de Belleville en 2016, il est question de rhapsodie de forme créant une commotion, alors commotion, je vous cite, entre les spectateurs et la pièce. Quelle place prend le public justement dans votre travail ?
Je trouve que c'est toujours très... En tout cas, avec l'écriture en train de se faire, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant dans le rapport que ça crée avec la salle et dans l'écoute que ça peut susciter, parce que le spectateur est placé dans un dispositif de lecture et du coup, il est en train de finalement participer à la partition qui est en train d'apparaître devant lui. Et il est lui-même interprète quelque part de ce qu'il est en train de voir. Et donc, moi, ce qui me réjouit de penser, c'est de me dire qu'à ce moment-là, peut-être, le spectateur devient lui-même poète de la forme qu'il est en train de recevoir. Et ça, ça m'intéresse beaucoup de voir comment c'est pas simplement une forme qui se déploie, mais c'est une forme qui dialogue avec un imaginaire. Et il y a autant de théâtre qu'il y a d'individus dans une pièce, parce qu'il y a autant d'interprétations possibles, et autant de sensibilités, et autant d'histoires.
Dans la vidéo que vous m'avez fait parvenir, il y a un passage assez curieux. J'imagine qu'il s'agit des quatre autres acteurs de votre compagnie, qui jouent avec un masque de réalité virtuelle sur le visage. Alors, ma question là tourne plutôt autour de la direction d'acteurs. Comment est-ce que vous gérez les acteurs, justement, autour de l'improvisation et de l'espace scénique avec le texte ?
Ça, c'est une expérience que je réalise depuis 2 ans et demi maintenant. C'est l'idée de déployer un dispositif de découverte d'un texte qui apparaîtrait dans le casque à réalité virtuelle que portent les acteurs. Et donc, les acteurs ne connaissent pas du tout le texte qu'ils vont avoir à dire. Ils savent simplement qu'ils ont un code. Par exemple, toi, voilà, tu suis la partition qui est en rouge, toi, tu suis la partition qui est en bleu, toi, machin. Et donc, il y a autant de couleurs qu'il y a d'acteurs. Et l'idée, c'est de se laisser traverser par le texte qui est en train d'apparaître. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les acteurs ont une qualité de défilement qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui vont aller très vite, donc ils sont obligés de sélectionner dans les mots qu'ils vont devoir prononcer certains mots qu'ils arrivent à attraper au vol. Du coup, il y a un peu une réécriture du texte à cet endroit-là, parce que la sélection est déjà aussi une réécriture, comme au cinéma, le montage en est une. Voilà, ça c'est quelque chose que je suis en train de développer en ce moment dans le cadre de mon doctorat sacre au conservatoire. C'est essayer de créer un dispositif où maintenant j'aimerais arriver à... Jusqu'alors c'était des textes qui étaient déjà programmés en amont, que j'avais déjà écrits, que j'avais convertis en vidéo et qui apparaissaient selon une sorte de défilement, comme une sorte de karaoké théâtral quelque part. Là j'essaye de voir comment je pourrais travailler avec des développeurs par rapport à ça pour créer une application où je peux écrire en direct dans la tête des acteurs et faire apparaître en temps réel l'écriture qui vient de s'écrire à même la scène, quoi.
Dénouille, dénouille, dénouille. J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
Que va-t-on manger ?
Des nouilles.
Mais hier déjà.
Des nouilles.
Ce matin encore.
Des nouilles.
À midi enfin.
Des nouilles. Avec des nouilles, on se débrouille, on veut des nouilles, rien de plus.
On ne peut pas manger que des nouilles, il faut varier les menus. Il y a donc les vermicelles, les spaghettis, les papillons, cheveux d'ange ou de demoiselle, ruban, coussin et tortillon, macaroni et coquillettes, petits plombs ou langues d'oiseau, alphabet au bord de l'assiette, paniers, roulettes et fuseaux. Des nouilles, des nouilles, des nouilles. J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
Mais avant les nouilles.
Des nouilles.
Mais avec les nouilles.
Des nouilles.
Mais après les nouilles.
Nouilles.
Alors un gâteau.
De nouilles. Avec des nouilles, de ma goule, on veut des nouilles, rien que ça.
Des nouilles, alors moi je cafouille, servir toujours le même plat. Mais il y a les vermicelles, les spaghettis, les papillons, cheveux d'ange ou de demoiselle, ruban, coussin et tortillon, macaroni et coquillettes, petits plombs ou langues d'oiseau, alphabet au bord de l'assiette, paniers, roulettes et fuseaux. Des nouilles, des nouilles, des nouilles. J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
Quel est votre nom?
Des nouilles.
Où habitez-vous?
Des nouilles.
Que font vos parents?
Des nouilles.
Combien gagnent-ils?
Des nouilles.
Des nouilles. Des nouilles. C'est une idée, ça, des nouilles. Des nouilles, des nouilles, des nouilles. Des nouilles, des nouilles.
Alors, on a écouté Des nouilles de Fabulette, Valérien Guillaume. Notre invité a choisi cette musique. Dites-nous pourquoi vous avez choisi cette musique.
Alors, c'est une chanson d'Anne Sylvestre, qui est une grande artiste et qui a écrit également beaucoup de chansons pour enfants. Je trouve que c'est une chanson qui me fait beaucoup rire, voilà. Et puis je travaille actuellement sur une pièce qui s'appelle Richard dans les étoiles, qui est l'histoire d'un homme qui fait des frites, quoi, et qui a c'est un peu comme le pâté de Krabs dans Bob l'éponge. Il y a une queue énorme tous les jours pour ces fameuses frites. Et un jour, il s'arrête. Ça crée une émeute. Ça crée un état d'urgence. Voilà. Et du coup, il y a tout le monde qui crie des frites. Et là, bon, les enfants crient des nouilles. Ça me fait beaucoup rire. Voilà.
Du coup, je vais faire une petite transition avec la musique parce que vous faites aussi de l'improvisation écrite sur de la musique, concept d'ailleurs programmé pour Avignon 2020. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
C'était un spectacle qu'on devait jouer cet été au Festival d'Avignon et qui malheureusement a été annulé, comme beaucoup de choses et comme pour beaucoup de mes camarades et amis autour de moi. Et voilà, la situation nous fragilise aussi à plein d'endroits, mais voilà, en tout cas, ce spectacle était, mais peut-être sera, puisque ça va, je l'espère, je touche du bois, reconduit, je l'espère de tout cœur. Mais c'est un spectacle que j'ai formulé avec le compositeur Victor Pavel, qui est un musicien qui fait de la musique électronique. Et on a créé un dispositif de spectacle dans lequel ce que je suis en train d'écrire influence la musique en direct et la musique influence aussi mon écriture. Et c'est une pièce pour orchestre dans laquelle l'écriture a vraiment le rôle principal, puisque nous sommes tous les deux devant un écran et autour de cet écran, il y a donc l'orchestre d'Asko Schoenberg qui est autour. Et on est en train d'écrire autour d'un monstre qui s'exprime, qui est cousu effectivement de plusieurs matériaux, une sorte de rhapsodie là aussi de différents éléments. En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail, dans notre rencontre avec Victor, c'est véritablement l'idée d'interroger la réflexivité de nos écritures respectives. On n'écrit pas avec les mêmes choses. Lui, il écrit avec du son, il écrit avec le rythme, avec plein de choses très différentes, avec des samples. Il a plein de banques sonores, plein de choses comme ça. Moi, j'ai plein de banques textuelles, on va dire, et j'écris aussi avec du rythme. Mais en tout cas, c'est très intéressant de s'interroger comment sa pratique va nourrir la mienne et la mienne la sienne. En tout cas, il y a vraiment une idée de faire un, parce que c'est pas du tout c'est pas de la musique qui vient illustrer le texte, c'est pas un texte qui vient illustrer la musique. Donc ça a été vraiment le défi, c'était de créer un golem vivant et organique de nos deux pratiques respectives qui deviennent un personnage. On joue tous le même personnage, que ce soit la trompette et que ce soit un chanteur lyrique qui sera sur scène, ou que ce soit Victor ou moi, on est tous le même personnage. Voilà.
Donc la musique, le théâtre, mais vous avez aussi écrit Nul si découvert, qui a été publié l'année dernière. Ce roman parle de la société de consommation et sa forme est quelque peu originale. Mais pourquoi avez-vous décidé de vous consacrer uniquement à l'écriture sur ce travail? Y avait-il des choses que vous ne pouviez pas mettre en scène? D'ailleurs, une actrice lit un extrait de Nul si découvert. Alors, quel est le rapport avec le théâtre, s'il y en a un? Et pourquoi juste l'écriture sur Nul si découvert?
J'ai commencé à écrire ce texte comme un monologue de théâtre. J'écris, et j'ai toujours écrit pour la voix humaine, en tout cas, je cherche toujours à essayer de trouver un parler plus ou moins poétique avec des personnages souvent très ancrés dans le réel, qui souvent sont en proie à des états de folie ou de perception altérée. Et pour écrire ce texte, je voulais écrire un peu un monologue impossible, un monologue fleuve, qui demanderait beaucoup à l'interprète, mais me laissant quelque part attrapé par ce personnage que j'étais en train de déployer. Il m'a emmené avec lui dans ses galeries, dans ses centres commerciaux, dans ses séances de fouilles à l'entrée des magasins, donc il adore l'effet que cela lui procure. Et j'ai voyagé avec lui, et en fait, ce texte est devenu un livre. Et je ne m'y attendais pas forcément, mais c'était très heureux, et c'était aussi une manière autre de penser la page. J'ai essayé d'investir la page un peu comme une scène, c'est-à-dire de voir comment on pouvait créer des reliefs aussi sur la page. Effectivement, c'est important les mots, l'histoire que ça raconte, mais c'est aussi important, je trouve, l'aspect graphique d'une page. Je trouve que c'est, ça raconte beaucoup sur l'œuvre qu'on essaye de formuler. Et dans ce roman, donc, il y a beaucoup de blancs typographiques, des sauts de ligne, des choses comme ça qui formulent vraiment le texte, non plus comme... texte imprimé, mais aussi comme texture, quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Et pourquoi avoir écrit ce roman ? C'était aussi l'idée de pouvoir avoir une plus longue longueur d'écriture, hein. De pouvoir m'accorder plus de temps, je veux dire, d'écrire plus dans la durée, parce que les spectacles aujourd'hui, surtout quand on est une jeune compagnie, sont souvent formatés à un format d'1h10, 1h30. Voilà, au-delà, c'est un peu risqué, ça peut arriver d'ailleurs, hein, et c'est très bien. Mais on est quand même limité et contenu dans une durée... que le livre permet d'altérer. Du coup, on peut faire quelque chose de plus grand, de plus long, d'aller au... Voilà. Et voilà.
Et justement, vous parliez de la forme de la page, de son graphisme. La question de la ponctuation, elle est intéressante dans Nul si découvert et dans le rapport que vous en faites avec le théâtre. Quand je l'ai lu, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer, sauf justement dans ces interstices, dans ces passages à la ligne. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas mettre de ponctuation ? Peut-être pour rompre avec l'oral ?
En fait, j'ai pas du tout décidé. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, qu'on m'a dit pourquoi il y a pas de point. Il y a des gens vraiment que ça peut bloquer, etc. Alors que j'ai véritablement fait un travail très minutieux pour que justement du premier mot au dernier mot, on soit pris dans une haleine, dans une sorte de rythme, dans une sorte de course aussi effrénée comme le personnage peut l'être dans sa consommation ou dans sa boulimie, dans cet excès de tout, l'idée de dévorer le monde. Et en fait, le personnage s'exprimait comme ça, j'ai pas du tout choisi quelque part, c'est lui qui m'a imposé ça, et comme je disais, qu'il m'a attrapé par la main pour aller avec lui dans son odyssée périurbaine, j'ai été pris comme le lecteur quand il lit le livre, c'est-à-dire qu'il est pris dans une sorte de d'haleine permanente comme ça, où c'est haletant, il y a quelque chose de presque suffocant à des moments peut-être, et à d'autres moments plus poétiques, mais... Parce que je crois que dans la vitesse, il peut y avoir vraiment une poésie. Mais c'est vrai que la ponctuation, c'est quelque chose qui enferme souvent l'écriture, à mon sens. Et j'ai vraiment du mal à me projeter dans une ponctuation ordinaire, puisque j'ai l'impression que ça peut parfois limiter l'interprétation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les spectacles que je fais, les textes que je donne aux acteurs sont toujours non ponctués. Et en bloc, là, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de blanc typographique, je leur donne vraiment un mètre carré de texte et puis ils doivent mettre leur ponctuation personnelle à l'intérieur. Parce que là encore, comme je disais tout à l'heure, l'idée de sélectionner des mots, c'est un montage et donc une écriture. Là aussi, je pense que le souffle, l'inflexion, le rythme, la vitesse, le débit, ce genre de choses sont aussi des éléments qui font de l'acteur un véritable, de l'actrice un véritable interprète. Et ça m'intéresse beaucoup de voir comment, sur un texte, les acteurs vont placer tel ou tel... silence, telle ou telle pause, ou au contraire, comment ils vont accélérer à tel moment où moi, je ne l'aurais pas du tout pensé. Et là, récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai proposé à plusieurs proches, amis et d'autres personnes que je ne connais pas du tout de mettre en voix Nul si découvert de manière, avec les moyens du bord, en confinement, avec nos appareils électroniques, etc. Et j'ai été frappé de voir la multitude et la multiplicité des interprétations du texte Nul si découvert, qui pourtant, effectivement, il y a des moments très différents, mais... Dans la forme, je veux dire, le texte est livré de la même façon. Donc, il y a même une personne qui l'a un peu interprété à la Jacques Demy en chantant. Il y a des gens qui l'ont pris avec puissance, d'autres au contraire très lentement. Enfin voilà. Du coup. Et moi, je trouve ça, moi, ça me touche beaucoup de voir comment on se débrouille aussi et comment on construit le sens à l'intérieur d'une matière, qu'elle soit textuelle ou autre.
Je trouve qu'on peut voir un lien avec les figures de Beckett dans le rapport avec la parole, l'errance. Et du coup, je voulais savoir quelles étaient vos références en théâtre, en littérature. Y a-t-il une résonance entre les deux, comme dans votre travail ?
Oui, Samuel Beckett, c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup, effectivement. Je pense que Molloy, par exemple, c'est une œuvre extraordinaire, qui a peut-être infusé d'ailleurs dans Nul si découvert à quelques endroits, parce qu'il y a vraiment cette idée aussi d'une sorte de trac où tout l'environnement est toujours un problème, où, enfin il y a quelque chose de très beau là-dedans. Sinon, dans les références qui m'accompagnent le plus souvent, et actuellement c'est souvent fluctuant évidemment, mais je pense que Georges Perec est une figure assez importante pour moi. Au théâtre, Claude Régis a été fondamental dans ma... Comment dire, est toujours fondamental dans... La nourriture que ça apporte dans les réflexions au plateau, certains dramaturges d'Europe de l'Est. Oui, il y a plein de choses qui me nourrissent. Oui.
Eh bien, merci Valérien Guillaume. Vous pouvez lire Nul si découvert aux éditions de l'Olivier et suivre son travail sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle le nom de la compagnie, Désirade, qu'on espère voir très très vite sur scène.
Merci.
Tous les mots que tu disais, je ne les comprenais pas. Tous les mots se ressemblaient, mais ça ne te ressemblait pas. Tous les mots se moquaient de moi. Tous les mots m'ensorcelaient, mais tous les mots ne comptaient pas. Tous les mots que j'attendais, je ne les entendais pas. Parfois tu t'en approchais d'un bout de bois. Tous les mots, tous les mots, tous les mots que tu disais, je ne les retenais pas. Si tu les avais murmurés, j'aurais peut-être ouvert les bras. Et tous les mots se modifiaient. Se moquer de moi. Tous les mots m'ensorcelaient, mais tous les mots ne comptaient pas. Tous les mots que j'attendais, je ne les entendais pas. Parfois tu t'en approchais d'un bout de bois. Ta langue n'en voulait pas. Tous les mots que j'attendais, je ne les entendais pas. Parfois tu t'en approchais d'un bout de bois. Et ta langue n'en voulait pas.
Chères auditrices, chers auditeurs, je vais consacrer mon temps de parole sur Syllab aujourd'hui, non pas pour faire la critique d'un spectacle, non pas pour faire le portrait d'un artiste ou l'interview d'un autre, mais pour réagir à l'article « La catastrophe comme produit culturel » écrit par Thibaut Croisy. L'article dont je vais vous parler est trouvable sur le blog Contrebande du site Le Monde Diplomatique. Il est écrit dans les grandes lignes que le théâtre s'est transformé en Club Med pendant cette période de confinement. L'auteur commence par cette phrase. La culture n'aura pas mis plus de 48 heures à se dévoyer dans l'animation. J'ai été heurté et touché par la condescendance de ces premiers mots. Moi qui anime toutes les semaines des ateliers de théâtre avec des enfants, des étudiants et des adultes amateurs, je n'admets pas que l'animation ait moins de valeur que la culture avec un grand C, comme semble tant l'apprécier Thibaut Croisy. Il écrit ensuite que les lieux de culture sont incapables de se taire malgré l'impossibilité concrète de créer et de représenter. Afin d'argumenter par l'exemple son propos, Thibaut Croisy nous décrit le rendez-vous journalier que nous donne Wajdi Mouawad sur son SoundCloud pour écouter comment le directeur de la colline vit son confinement. Il donne également l'exemple de Wajdi Mouawad, toujours, de solliciter des comédiens pour appeler les spectateurs réguliers de la colline afin d'entendre quelques minutes de poésie par téléphone. Je ne comprends pas comment on peut reprocher à un directeur de théâtre de vouloir rester en contact avec ses abonnés, surtout qu'il n'impose rien à personne. Si l'on ne veut pas entendre son journal, on ne se branche pas sur son SoundCloud, et si l'on ne veut pas être appelé, on ne donne pas son numéro. Ce qui me dérange en fait dans cet article, c'est qu'au fur et à mesure de la lecture, on se rend vite compte que les seules initiatives sur lesquelles tape Thibaut Croisy sont celles du Théâtre de la Colline et de son directeur. La moitié de l'article est consacrée à cela. Donner des leçons à Wajdi Mouawad. Je ne suis pas forcément adepte du travail de celui-ci, mais la critique est extrêmement facile de la part de Thibaut Croisy dans le cas présent. Il écrit, je cite, « L'urgence culturelle est de gaver le public de contenu numérique pour mieux le conserver, voire même pour l'élargir. Je pense, personnellement, qu'élargir le public de théâtre est une chose noble, mais je ne crois pas que ce soit le souci de Thibaut Croisy apparemment. » Dans la note d'intention de son dernier spectacle, qui s'intitule « D'où vient ce désir partagé par tant d'hommes qui les poussent à aller voir ce qu'il y a au fond d'un trou », Thibaut Croisy écrit à propos de ses textes dramatiques, je cite « Les trucs pas mal que j'ai écrits, ou du moins les trucs dont j'ai été satisfait, je les ai sortis d'un seul coup, en ne réfléchissant pas, en ne les retravaillant presque pas non plus. » Cette phrase suggère de la part de cet auteur metteur en scène, que dis-je, de ce génie, une croyance en l'artiste démiurge, en la création divine qui n'est pas accessible à tout le monde. Que l'art, et faire l'artiste, n'est réservé qu'à une certaine partie de la population, une élite. Le problème vient de là, peut-être, finalement. Ce partage de culture au plus grand nombre est comme donner de la confiture au cochon, pour Thibaut Croisy. Enfin, c'est l'impression qu'il donne, puisqu'il nous partage tout de même une de ses références culturelles que je vous propose d'écouter maintenant.
Attends que le temps te vide comme un œuf. Sors de ta coquille comme un chien dans un jeu de quilles. Oublie dans un jeu d'où tu viens. Oublie d'où tu viens. Le fer et la grille, le bâtiment neuf, comme une arme brille dans. Mur humide, trace ton chemin, mais n'oublie pas que tant que changera. Non.
Enfin Brest, merci à Valérian Guillaume d'avoir répondu à notre invitation. Durant l'émission, vous avez pu écouter Les mots de Mickey 3D et New Amsterdam de Moondog. Tonnerre de Brest, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. A bientôt sur Syllab.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabe.